Bonjour chers amis internautes. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir un texte qui est assez connu, qui représente, enfin qui nous parle de la vocation d'Abraham, de son appel. Mais avant toute chose, je vous propose de prier l'Esprit Saint, celui qui a inspiré en profondeur les Écritures, afin qu'il nous aide à assimiler ce texte, qu'il en fasse pour nous une nourriture pour notre foi. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu daignes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole, selon le mot du psalmiste, « Ouvre mes yeux, et je contemplerai les merveilles de ta loi ». Alors, avant de commencer à méditer ce texte, je vous en propose la lecture. Vous pourrez aussi sur le site le télécharger, comme ça vous l'aurez sous les yeux. Même s'il est court, ça peut toujours être utile. Alors, voici la lecture du texte. Donc, il se trouve en Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays. » Laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Alors, ce récit marque un tournant dans le livre de la Genèse, puisque les 11 chapitres précédents sont très difficiles à dater chronologiquement, et c'est plus l'histoire universelle que du peuple dit élu qui deviendra le peuple juif. Avec Abraham, avec ce chapitre, commence ce qu'on appelle l'histoire sainte du peuple d'Israël. Donc là, nous avons comme un zoom de l'humanité. Nous allons zoomer sur un tout petit peuple, d'abord l'ancêtre de ce peuple, du peuple hébreu, le peuple juif. Et donc, d'un Dieu universel, nous avons là un Dieu qui va d'abord s'occuper du peuple d'Israël pour plus tard, notamment Jésus-Christ, se réélargir au monde. Bon. Il n'est pas ici le lieu de cet enregistrement d'expliquer pourquoi Dieu a décidé cette stratégie, mais disons simplement que Dieu fonctionne, si j'ose dire, en respectant les libertés humaines, et c'est par l'exemple, et c'est par d'autres humains qu'il veut sauver l'humanité, c'est tout le sens de l'incarnation, et donc c'est par un peuple qui voudra rayonner sur les autres peuples, c'est un petit peu l'idée. Alors, Abraham, généralement, l'histoire d'Abraham est datée de moins 2000, avant Jésus-Christ, donc 2000 avant Jésus-Christ, ou 1800 avant Jésus-Christ, date haute et date basse. Certains théologiens disent maintenant qu'Abraham n'aurait pas existé, avec des arguments vraiment très justes, donc je ne vous recommande pas ces théologiens qui, malheureusement, sont à la mode dans l'Église en ce moment, c'est bien dommage. Sous prétexte notamment que Abraham n'est pas cité dans le livre d'Amos qui serait un des premiers écrits des prophètes. Il y a des raisons vraiment très très justes. Donc restons à l'argumentation classique qu'Abraham aurait vécu donc vers entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ. Alors il vient d'Ur en Chaldée, donc Chaldée qui donnera un nom plus moderne que l'on connaît mieux qui est Babylone. Très exactement, la Chaldée c'est plutôt le sud de la Babylonie, c'est-à-dire le sud de l'Irak. Et Ur en Chaldée, Ur c'est en gros dans le Koweït actuel. Donc on voit à peu près d'où Abraham venait. Alors ici, bon, avant de plonger, si vous voulez, dans des interprétations plus spirituelles, l'interprétation de base, dite historique et littérale, déjà nous souligne une chose, c'est que Abraham, en tout cas dans le récit biblique, Dieu n'est pas mentionné dans la vie d'Abraham avant, tout au plus le père d'Abraham va migrer vers Haran, qui est dans la Turquie actuelle, pour se diriger vers Canaan, et là il est arrêté, et c'est à Abraham que va échoir la mission d'aller à Canaan. Donc en filigrane, peut-être qu'il y a déjà eu un appel, mais il se fait clairement entendre à Abraham. Donc le récit biblique, ce n'est pas un hasard, veut nous montrer par là que Dieu fait comme une irruption dans la vie d'Abraham, peut-être qu'il y a eu un cheminement plus lent dans la vie d'Abraham, une méditation, une maturation. Mais cela dit, Dieu arrive, et quand Dieu arrive dans une vie, c'est pour la changer. Si, à l'inverse d'Abraham, nous disons croire en Dieu et nous disons que Dieu a une place dans notre vie, mais continuons à vivre exactement de la même manière, il y a un gros problème, et c'est pas le Dieu de la Bible qui a fait irruption dans notre vie. Ou alors on l'a mis dans une boîte, on a bien fermé la boîte. Donc il faut le savoir. Alors ici, si on prend, disons, une vision très nouveau, très néo-testamentaire, Nouveau Testament, il faut savoir que, à l'exemple des apôtres, le Christ est partout dans la Bible, à commencer par l'Ancien Testament, et il donne des clés. Et en lisant ce texte, en mettant à Abraham, si vous voulez, Jésus, Abraham en parallèle, on apprend des choses intéressantes sur la mission du Christ et sur sa signification. Si vous voulez, ici, on pourrait très bien voir Abraham comme une préfiguration, un type du Christ. Et le Père lui dit « pars de ton pays », c'est-à-dire l'incarnation. Jésus était bien tranquille auprès de sa famille, la Sainte Trinité, le ciel, et il va quitter la maison de son Père, littéralement, et il va aller dans un pays, c'est-à-dire la terre, plus spécialement Israël, et va s'incarner. Et le Père, en accord avec le Fils, fera, à partir de l'incarnation, une grande nation du Christ. C'est la préfiguration de l'Église, déjà préfigurée par Lot, qui ici représente un peu l'Église primitive et les disciples, c'est-à-dire en germe l'Église qui deviendra une grande nation. Et la promesse de Dieu, qui rejoint Matthieu chapitre 16, où Jésus dit à Pierre que les forces de la mort ne prévaudront pas contre l'Église, eh bien Dieu lui dit « Je vais te bénir, et par l'Église viendra une grande bénédiction, et ceux qui s'opposeront à toi seront défaits. Je maudirai celui qui te méprisera. » Et donc la terre est destinée à être bénie par l'Église. Et ça rejoint à Vatican II, la constitution Lumen Gentium, lumière des peuples, où l'Église dit elle-même qu'elle est sacrement signe de l'amour de Dieu et lumière pour les nations. Si l'Église perd de vue qu'elle a une mission et pas simplement être enfouie et essayer de se faire le moins remarquer possible, mais qu'elle a une mission, qu'elle a quelque chose à apporter à l'humanité, ce n'est plus l'Église. Elle perd de sa vitalité, comme le dit le Christ, le sel perd de sa saveur et il est bon d'être foulé aux pieds. Donc il faut être fier d'être chrétien, mes frères. Vous avez quelque chose à apporter. Rien n'est pire que de dire « chacun a sa vie, je n'ai pas à forcer les gens à croire en Dieu », ce qui est vrai. Et utilisant ça comme prétexte, ce sur-respect humain qui est bien souvent une lâcheté de notre part, eh bien, nous taisons notre foi et nous avons l'impression que nous avons plus à apprendre des autres qu'à leur apporter. Alors c'est vrai qu'il faut se mettre à l'écoute des autres et qu'il faut savoir bien écouter, comme le livre de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Donc il faut savoir écouter, mais toujours pour mieux apporter. Nous avons quand même le Dieu des dieux, la richesse absolue à apporter à nos frères. Et se mettre à l'écoute de nos frères, c'est pour mieux leur apporter quelque chose, pour que ça soit bien en phase avec leur vie. Mais ce n'est surtout pas se dire « je n'ai rien à leur apporter, je n'ai rien, et donc je me tais, et puis etc. » Voyez la différence. Frère, vous avez une mission. C'est vous l'Église, c'est moi l'Église, c'est nous l'Église. Et à travers Abraham, c'est nous qui sommes concernés. Alors si nous revenons au Christ, le Christ donc va bénir à travers l'Église. Donc le Christ lui-même, maintenant si on revient au Christ, le Père dit au Christ, je ferai de toi une grande nation, je bénirai et je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, maudirai celui qui te méprisera. Et tout le monde sera béni par ton nom. Jésus dit, me semble-t-il, dans Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vie, la vérité. Et là, il y a quand même un gros problème dans notre Église actuelle, disons, comment est perçu ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Alors, en théorie, dialogue interreligieux, c'est mieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, se mettre à l'écoute de nos frères, d'une autre religion, pour mieux leur apporter le Christ. Mais malheureusement, dans les faits, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous n'avons rien à apporter, chacun son Dieu, et à la rigueur, je vais me laisser, toucher et influencer par les autres religions au point des fois d'en perdre la mienne. Alors là, il y a une grave erreur, parce que c'est par le Christ que Dieu veut bénir l'humanité. C'est par Abraham qu'il a voulu bénir les Égyptiens et tout le reste de l'humanité. Il passe par un canal, et ce canal absolu, c'est le Christ. Et donc le Christ, c'est le chemin à la vie, la vérité. Donc les musulmans, les bouddhistes, les juifs eux-mêmes ont droit à l'évangile. Et nos frères athées ou se disant tels ont aussi droit à l'évangile. Donc faisons très attention de ne pas fuir la mission sous prétexte d'un respect surhumain, en deux mots, c'est-à-dire trop humain. Alors, là, je crois qu'il y a un danger grave pour l'Église, et je crois que l'Église gagnerait à être beaucoup plus claire sur ses objectifs, ce que Vatican II dit. Vatican II dit qu'il y a des germes d'évangélisation et de foi chrétienne dans les autres religions, je crois que c'est Lumen Gentium, chapitre 16, et qu'à partir de ces ferments d'évangélisation, il faut apporter le Christ. C'est exactement ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est le sens profond du dialogue interreligieux. Et ce n'est pas ce qu'on est en train d'en faire maintenant. Parce que là, c'est grave, c'est un reniement du Christ. Ni plus, ni moins. Alors, et soyons-en convaincus, Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il y a, donc Lot est la préfiguration bien sûr de l'Église, mais sa préfiguration un peu en germe de tous ces peuples qui seront bénis par Jésus. Il y a en tout homme, dans toutes les religions, un germe qui a soif du Christ et qui est prêt à le suivre, même si en apparence ce n'est pas le cas. Car soyez-en convaincus mes frères, vous ne violerez jamais la liberté de quelqu'un en essayant de lui apporter le Christ, dans la mesure où vous le faites avec respect. Et si la personne ne veut pas en entendre parler, au moins, faites-le par les actes. Enfin, même si elle veut entendre parler, les actes, ça ne dispense pas des actes, évidemment. Parce que tout homme a soif de voir le Christ, parce qu'il est la bénédiction, il est le chemin. Alors faisons très attention. Maintenant, si nous prenons un peu ce texte, d'un point de vue, toujours avec cet éclairage du Christ, d'un point de vue, disons, plus axé sur notre vie quotidienne et intérieure, il y a quelque chose d'intéressant. D'abord, par rapport aux autres, ça rejoint ce que je viens de dire, en disant qu'il y a une soif du Christ en tout homme. Nous sommes appelés, comme Abraham, à quitter notre pays, notre famille, la maison de notre père, nos habitudes. La conversion doit donner naissance à un changement radical. C'est le sens profond, en Jean chapitre 3, du sens de être né de nouveau. Et la conversion, c'est accepter d'être dépaysé. En lisant l'Écriture, il faut aussi accepter d'être dépaysé. Et nous sommes appelés à changer nos habitudes. La rancune, la colère doit laisser la place au pardon, etc. Vous voyez, nos jugements hâtifs sur telle ou telle personne, quitte ton pays, quitte ton jugement, et si tu quittes ton jugement, si tu acceptes de voir avec mes yeux, dit le Seigneur, alors je te bénirai, et tu seras une bénédiction, y compris pour ceux que tu estimes être tes ennemis. Vous voyez, car souviens-toi mon frère, souvenons-nous que en tout homme, ce que nous jugeons, ce que nous avons envie de haïr, ceux pour qui nous avons de la rancune, en tout homme, il y a un Lot qui est prêt à nous suivre. Alors, en parlant de Chaldée et de Lot, c'est intéressant parce qu'Abraham vivait en Chaldée, qui veut dire terre des démons. Donc, c'est très explicite, nous sommes appelés à quitter notre péché. Et Lot veut dire voilé, caché. Donc, cette soif de Dieu en l'autre, en tout homme, quelque chose qui sera réceptif au Christ, ça peut être voilé dans l'inconscient, au plus profond de nos frères. Ça peut être comme caché. Mais c'est là. Et donc, il y a en tout homme cette semence qui est prête à répondre positivement au Christ. C'est pour ça, mes frères, que vous ne violerez jamais la liberté des gens. Car en profondeur, l'homme librement a soif du Christ. Ce sont tous ses préjugés, ses carapaces, ses mauvais jugements, cette terre de Chaldée des démons qui a étouffé sa liberté profonde. Et nous sommes appelés à être bénédiction à la suite du Christ en allant casser ses carapaces pour atteindre en profondeur la soif, la liberté de nos frères. C'est tout le sens de la crucifixion d'ailleurs. Le Christ par la croix, à sa descente aux enfers, 1er épître de Pierre chapitre 3, descente aux enfers, après la croix, il a planté sa croix au plus profond de notre liberté, au-delà de nos carapaces. Nous sommes invités à le suivre, à porter cette croix justement, à le suivre dans cette démarche de libération de nos frères. Donc n'ayez pas peur. En essayant d'évangéliser vos frères, par l'exemple d'abord, et éventuellement par les paroles s'ils sont ouverts, vous ne violerez en aucun cas leur liberté. Mais pour cela, donc, il faut accepter de quitter notre terre de Chaldée, nos petites habitudes, nos familles, la maison de notre Père, et accepter, comme c'est expliqué en Matthieu chapitre 5, 6 et 7, vraiment cette vie du chrétien qui est faite d'amour pour les ennemis, etc., de service. Ce qui m'amène à l'interprétation centrée sur nous-mêmes, pas sur nos frères cette fois-ci, mais sur nous-mêmes. Nous sommes appelés, pour pouvoir arriver, parce que c'est facile de dire, il faut aimer nos frères, les pardonner, au lieu d'avoir de la rancune, etc. Mais c'est surhumain, au sens, c'est Superman, ça. Alors comment faire ? Eh bien, le texte nous donne une piste. Il faut quitter la maison de notre Père, et pour devenir bénédiction. Il faut accepter de, justement, nous abandonner à Jésus. C'est tout le sens de la foi. Sauter dans la foi, sauter dans l'abandon, plutôt que nous enfermer dans nos sécurités. Parce que nous avons, à l'image d'Adam et Ève, envie de manger du fruit, hein, d'autres sécurités que Dieu. Tant que nous nous raccrocherons à nos certitudes, à nos sécurités, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à nous laisser envahir, à nous laisser transformer par l'Esprit, lui qui est souffle, qui nous amène aux quatre vents. Et pour ça, il faut vraiment s'abandonner. L'abandon, c'est-à-dire dire au Seigneur, eh bien Seigneur, voilà comme je suis, je m'abandonne à toi, je t'abandonne mes soucis, je t'abandonne mes péchés, ma terre de Chaldée, je me confie en toi. Au début, ce sera peut-être à chaque temps de prière d'un cœur sincère, et petit à petit au quotidien, chaque fois que nous avons une pensée qui est encore de la maison de notre Père, qui est encore une vieille habitude, tout abandonner au Seigneur. Et petit à petit, le Seigneur va nous guider sur la terre promise, vous voyez, et nous serons une bénédiction. Et n'ayons pas peur, parce que si vis-à-vis de nos frères et vis-à-vis de nous-mêmes, nous avons ce comportement, toutes les résistances, c'est-à-dire ce qui s'oppose, sera maudite en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qui va faire obstacle en nous-mêmes à la grâce, et ce qui en nos frères va représenter des résistances à ce Lot qui est en lui, eh bien tout ça est appelé à disparaître avec le temps. Et si ce n'est pas dans ce monde pour nos frères, ça sera dans l'autre. Mais ce travail commence déjà. Et ça m'amène à la dernière interprétation. Nous sommes appelés à quitter, au sens littéral, nos habitudes, notre terre, la terre de Chaldée qui est ce monde. Nous devons vivre déjà, en quittant ce pays, c'est-à-dire cette terre, pour vivre dans les lieux célestes. Alors, nous sommes dans cette terre, bien sûr, mais et nous sommes appelés à vivre notre existence terrestre avec les yeux fixés sur la terre promise, ce qui va changer notre échelle de valeur, ce qui va aussi nous aider à moins porter rancune, etc., sachant que tout ce que nous ferons ici, ce sont déjà des germes pour ce Lot qui est prêt à nous suivre jusque au ciel. Ce lot, c'est donc, comme je le dis, cette soif de Dieu en nos frères, cette ouverture en nos frères, y compris en nous-mêmes. Ce péché, peut-être, que nous avons beaucoup de mal à vaincre, et qui, au ciel, va complètement disparaître. Donc, il faut vivre avec le recul du ciel cette vie sur la terre. Et vous verrez, vous vivrez bien plus heureux, parce que les choses prendront plus de relativité. Vous vivrez les choses avec plus de recul. Et nous deviendrons une bénédiction. Une bénédiction qui va aller jusque dans la vie éternelle, à l'image du Christ. C'est parce qu'il a vécu sa vie terrestre, les yeux sur le Père, avec une mission très précise, qui était d'amener le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ciel, qui commence, c'est vrai, maintenant, mais qui, de manière ultime, lève les yeux de l'humanité vers le ciel. Eh bien, Jésus, en acceptant cette mission qui l'a conduit jusqu'à la croix, eh bien, Jésus a ouvert le ciel à ses frères et est devenu une bénédiction. Vous avez ça dans l'Épître aux Romains qui est bien développé, hein, et puis aussi dans l'Épître aux Colossiens, il est le premier-né des morts. Eh bien, nous sommes appelés à faire la même chose, à être des relais du Christ et à montrer à nos frères qu'il y a une autre existence et à les conduire à lever les yeux vers le ciel. C'est tout le sens du célibat du prêtre. Le célibat du prêtre, c'est une manière déjà de montrer qu'il y a une autre vie, qu'on peut vivre autrement. Vous voyez ? Eh bien, nous sommes appelés à déjà ouvrir le ciel à nos frères en leur montrant qu'il y a d'autres valeurs, d'autres choix à faire dans la vie, déjà en prenant des choix différents dans notre propre vie, à avoir des réactions différentes, comme tendre l'autre joue. C'est tout le sens de tendre l'autre joue. Car au sens littéral, si on vous gifle et vous tendez l'autre joue, ça va interpeller. Eh bien, toute notre vie doit être une interpellation. Nous avons des valeurs différentes. Et si nous choisissons ces valeurs, eh bien, nous serons une bénédiction à commencer par nous-mêmes. Dieu nous bénira, comme le dit le texte. Et alors, c'est fantastique. Parce que les gens verront que le vrai bonheur est ailleurs. Et en leur montrant ça, nous allons leur ouvrir les yeux vers le ciel. Et ensuite, par nos prières, par notre amour vis-à-vis de nos frères, nous allons leur ouvrir les portes du ciel en ouvrant ce lot à la résurrection. Tout ce que nous aurons semé d'amour pour nos frères va porter du fruit quand eux-mêmes se présenteront devant Dieu. Vous voyez, ça va jusque-là, la communion des saints. Donc même si nous n'avons pas toujours des résultats probants, visibles, que ce lot reste caché, eh bien, n'oublions pas que l'existence humaine est longue et que l'ouverture chez nos frères peut prendre du temps et que ça peut même aller au-delà et franchir les portes de la mort. Et ça peut porter du fruit au-delà. Donc ne l'oublions pas. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire à mes frères, et je vous propose de relire ce texte, et cette fois-ci, de faire des pauses, et de méditer ensemble par la prière, à partir de ce que nous venons de vivre ensemble. Donc, Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit, « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. » Seigneur, aide-nous à quitter nos habitudes, aide-nous à partir pour vraiment t'écouter toi, que la haine fasse place au pardon, à l'amour, que notre regard soit différent, que nous puissions vraiment vivre déjà sur cette terre avec d'autres valeurs. Et Seigneur, apprends-nous que, à ta suite, nous sommes appelés à nous incarner dans la vie de nos frères, par un amour toujours plus grand. Amen. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Seigneur, apprends-nous que le vrai bonheur, c'est justement de te suivre. Et apprends-nous que te suivre, quitter notre pays, comme nous l'avons vu, c'est aussi, pour nos frères, est une grande bénédiction. Si nous voulons rendre heureux nos frères et être heureux nous-mêmes, alors apprends-nous qu'il faut suivre ton chemin, ta vérité, ta vie, Jésus. Oui, apprends-nous, Seigneur, qu'un acte de pardon peut faire plus de choses pour changer une personne que la pression, la colère, etc., etc. C'est tout le sens dans Actes chapitre 9 du pardon d'Étienne, qui a en germe contenu toute la conversion de ce grand apôtre qui était saint Paul. Apprends-nous, Seigneur, à faire les bons choix. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre que malgré les obstacles extérieurs ou à l'intérieur de nous-mêmes, tout va céder la place à ta puissance. Je maudirai celui qui te méprisera. Oui, apprends-nous que le diable, que les forces du mal ne prévaudront pas contre ton Église, contre nous-mêmes, oui, et contre tous ces caldés qui sont nos frères. Seigneur, augmente en nous la foi en ta puissance. Apprends-nous que malgré les apparences, eh bien, tu fais ton chemin, et nous sommes du côté du vainqueur. Oui, Seigneur, que ceci donne du courage à persévérer malgré parfois les apparences trompeuses. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Seigneur, apprends-nous le sens de notre mission, que nous devons porter le Christ par nos actes, nos comportements, notre intercession et éventuellement notre témoignage verbal, et que ne pas le faire, quel que soit le prétexte, c'est trahir la mission que tu nous donnes. Nous te demandons pardon pour toutes nos lâchetés. Et Seigneur, nous te demandons vraiment de redonner courage à ton Église, et de raviver en elle le sens de la mission, et notamment par rapport au dialogue interreligieux, qu'il ait bien sa place comme germination, comme semence de l'évangélisation et non pas comme une fin en soi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Seigneur, que ceci donne du courage, il y a un Lot en chacun de nous, malgré notre péché, nos réticences, malgré les réticences de nos frères, malgré les hostilités de ce monde, il y a un Lot, caché, voilé, qui est là, qui est prêt à suivre Abraham. Que ceci donne du courage à persévérer malgré les apparences, que ceci aussi nous donne aussi du courage à persévérer malgré parfois la mort, que ceux-ci nous disent que nous avons une mission qui peut porter des fruits au-delà de la mort. Et Seigneur, ce Lot qui partit avec lui, c'est aussi sur cette terre tout ce qui peut nous rappeler le ciel, la prière, ta parole, c'est ce qui nous prépare à vivre pleinement le ciel. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas négliger ce Lot, qui est cette préparation du ciel sur la terre, qui reste cachée, voilée, mais qui est là et qui est nécessaire, la parole de Dieu, la prière, l'Eucharistie, tout ce qui peut nous rappeler notre vraie patrie. Oui, donne-nous la soif de prier, de lire ta parole, d'aller à la messe, de vivre les sacrements. Amen. « Oui, mes frères, je reviens sur cette dernière intention de prière. Oui, Lot, bien sûr, Abraham parti. Nous avons déjà la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Eh bien, Dieu nous donne des vivres, des Lot, c'est-à-dire des choses qui sont comme cachées, un petit peu des signes du ciel qui sont cachés, mais qui sont visibles à celui qui sait regarder. Alors c'est déjà tout ce qui entretient notre vision spirituelle, un petit peu à l'image de celui qui fait de la musculation, qui va entretenir ses muscles, et nous sommes appelés à entretenir notre vision spirituelle par un entraînement qui se compose de la lecture de la parole de Dieu et de la prière déjà, puis de la messe et de tout ce qui peut nous rappeler Jésus. Et donc il ne faut pas négliger ces armes-là. Donc il y a ces armes qui nous préparent à notre vie du ciel. Voilà, c'était la dernière intention de prière qu'il fallait un peu développer. Et mes frères, je vous propose une toute dernière prière qui va nous aider à assimiler vraiment ce que nous voulons méditer ensemble. Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré. En toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance. Amen. Merci mes frères pour ce temps que vous avez passé avec moi. Voilà, fin de l'enregistrement.